suis pour le métissage de la société, c'est-à-dire que je trouve que la société française, son avenir, sa beauté, c'est le mélange. Ah, c'est hey. Ça, ça craint. Hey. Quand j'étais ado, hein, moi, quand je croisais une voiture de police, franchement, j'avais peur.
Ça me révolte. La vérité, ça me révolte. La vérité, quand vous accompagnez votre enfant à l'école, comme je l'ai fait, dans une ZEP, et que vous voyez les gosses, et que vous dites que les trois quarts d'entre eux, leur destin, il est presque écrit. Pas leur destin individuel, ils ont encore des chances, mais leur destin scolaire, social, c'est un peu écrit. Et que, année après année, à chaque rentrée, vous les voyez marginalisés, vous en voyez moins, vous voyez qu'ils décrochent. C'est révoltant. Alors, votre solution. Je me suis fait une conviction. Il n'y a pas de solution pour les uns qui ne soit pas une solution pour les autres. C'est un plan France, un plan République qu'il faut, pas un plan banlieue.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mamadou et Binta, les conteurs de belles histoires. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Ali, fondateur du restaurant halal French Touch. Ali a commencé sa carrière en entreprise. Il était consultant en informatique. Malgré son parcours qui le destinait à évoluer au sein d'un grand groupe, Ali s'est rapidement lancé dans l'entrepreneuriat. D'abord, en ouvrant une pizzeria, et en la gérant en même temps que son emploi de consultant. Puis, en ouvrant une seconde affaire quelques années plus tard, cette fois-ci en s'y investissant à 100% de son temps. Son restaurant, French Touch, qui est sa troisième affaire, a aujourd'hui 5 ans, et le restaurant ne désemplit pas. On y mange des burgers d'exception et des desserts dignes de ceux des plus grands pâtissiers. Le goût du risque, Ali l'a expérimenté sur tous les terrains, en affaires et aussi dans les assiettes. Il s'inspire de ce qu'il aime pour créer ses nouveaux plats. Je racontais à mon fils l'objet du prochain épisode et il m'a posé la même première question qu'à chaque fois que je lui parle des personnes reçues. Comment s'appelle l'invité ? Cette fois, la réponse a retenu toute son attention. Quand j'ai dit à mon fils que l'interviewé du nouvel épisode s'appelait comme lui, et qu'ils avaient une passion commune, la cuisine, il a tenu à introduire cet épisode. Quand le grand Ali inspire le petit, ça donne ça.
Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Ali. Ali, c'est le créateur du restaurant Freestones. Au début de sa carrière, Ali a travaillé par un cabinet de conseil. Mais il aimait trop l'aventure. Alors, il a investi ses économies dans l'achat du pizzeria. Ça, c'était sa première affaire. Quelques années plus tard, il lance sa troisième société. Il s'agit de Frances, un super restaurant à Courbevoie qui fait des hamburgers trop bons. Quand il parle de sa cuisine, c'est avec beaucoup de passion. Il nous raconte aussi comment le sport a été un moteur dans sa vie. Comment l'état d'esprit de sportif lui a permis d'encaisser la pression. On a beaucoup aimé discuter avec Ali. Merci Ali pour ta compréhension.
Je me voyais en fait, cadre dans un domaine. Je me voyais avoir mon indépendance. Mm-hmm. C'est-à-dire, je voulais de l'indépendance.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il fallait que je puisse prendre des décisions, que j'ai une certaine liberté dans mon travail.
Ouais.
Ça, c'était non négociable en gros. Et voilà, j'avais de l'ambition, je me voyais.
Ouais.
Je voulais quand même avoir un poste à responsabilité,
ouais,
où je pouvais prendre des décisions et avoir une certaine liberté.
Donc ça t'a drivé quand même.
Voilà, ça m'a drivé, et je pense la liberté, elle a fait que j'ai eu du mal à reprendre l'informatique, parce que même si j'avais de la liberté en tant que cadre, c'était pas la même que chef d'entreprise. Donc ça, c'est ce qui a fait que ça collait plus du moins. Et après, les responsabilités, ben là, je suis servi. Hein. avec les employés, avec tout ce qui s'ensuit.
C'est clair.
Voilà, donc en gros, je ne me voyais pas dans ce domaine-là qui est la restauration, mais avec quand même ces casquettes-là qui sont la liberté de pouvoir entreprendre des choses et d'avoir du temps pour soi. Et puis même au niveau professionnel, après, c'est au mérite. Ça veut dire que tu vas à Londres. Si tu as envie de travailler, tu vas travailler.
C'est vrai.
Contrairement à Paris.
C'est vrai.
Tu peux avoir des barrières dues déjà à ton origine ethnique.
Ouais.
Donc ça, on est ici aussi, je pense, pour...
Pour parler de ça, ouais.
Pour en parler.
Ouais, exactement.
Et moi, dans mon parcours, ça m'a pas joué... Enfin, si, ça m'a joué des tours. Le fait de s'appeler Alice Wina.
C'est vrai.
Moi, j'étais à la fac Léonard de Vinci.
Mm-hmm. Donc, il y a la Défense, du coup.
Voilà, qui est à la Défense. Mm. Et moi, j'ai fait... J'étais dans les premières sessions. J'étais, je crois, dans la deuxième promo.
C'est vrai, parce que c'est une fac qui est assez récente, en fait.
C'est une fac qui est assez récente. On appelle ça la fac Passepoix. D'entrée de 30 000 euros. Heureusement, moi, je suis issu d'une famille modeste, on n'avait pas les moyens. Heureusement que, comme c'était financé par le Conseil Général des Hauts-de-Seine, ceux qui habitaient les Hauts-de-Seine avaient une remise de 90%.
D'accord.
Donc, on a payé 3 000 euros.
D'accord.
Ce qui était quand même une somme pour nous à l'année. Et donc, du coup, j'étais avec des fils et des filles à papa qui venaient en voiture. Moi, j'avais mon coupon de zone. en février, tu viens dans mon chalet, tout ça. Donc, voilà.
Rien à voir.
Voilà, rien à voir. On n'avait pas les mêmes vies. Mais c'est bien, ça a été une force. Hein. Donc...
La question, c'est, est-ce que tu n'as pas le sentiment de te dire... Oh ouais, mais on vit pas... En fait, pourquoi est-ce qu'on vit pas dans le même monde? Parce qu'en fait, tu te rends vite compte que, effectivement...
Pourquoi non? Parce que je les enviais pas du tout.
Ouais.
Ouais, franchement. Mais ça... Enfin, pour revenir à ta question, leur monde... Je me disais pas pourquoi on n'habite pas dans le même monde, parce que leur monde, j'étais très bien, moi. J'étais
très
bien.
C'est très important.
J'étais très bien dans ma vie, j'étais équilibré. Mm. Je me posais pas de questions. Eux se posaient plus de questions. Mm. Moi, je savais qui vous êtes. Eux ne savaient pas qui j'étais.
Qui toi, t'étais. Ça, c'est très important.
Ils se posaient des questions, tu vois. Ils se disaient, mais comment t'as atterri là? Mais pourquoi t'es avec nous, en fait? T'es bizarre. T'es pas comme les autres, tu vois.
T'es pas comme on pensait qu'ils étaient.
Voilà. Voilà, c'est exactement.
Ça. C'est vraiment le truc.
Exactement.
Que... Ah, mais en fait, t'es comme
et
ça.
Puis, et puis, peut-être que j'étais pote avec les gars avec qui ils faisaient leur deal, tu vois. Mm. Donc moi, ça me posait pas de problème. Moi, j'étais bien dans mes baskets. Je connaissais tout le monde. J'étais bien avec tout le monde. Voilà. Mais c'est important, je pense. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à aller au bout. C'est de se préserver. Pas dans le sens où on se mélange pas. C'est de garder ses valeurs et pas essayer de leur ressembler en se dénaturant, en fait.
Ça, c'est hyper important.
Voilà.
Et je pense, peu importe l'étape de la vie dans laquelle tu es, il faut le garder en tête.
Et on te respectera pour ça.
Exactement.
À plus long terme.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et c'est de rester conforme à ses valeurs, en fait. Peu importe le milieu dans lequel tu vas évoluer, tu vas être trempé, entre guillemets, il faut rester conforme à ce que tu as toujours appris, quoi. Ouais. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un autre moment dans ta vie où tu penses que ta diversité t'a joué des tours ou a influé sur la vision que les gens pouvaient avoir de toi?
Dans le monde professionnel, moi, j'étais dans une grande société en tant que cadre. J'étais un profil assez atypique. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie différence.
C'est vrai,
on m'a pris de haut, en fait. On m'a pris de haut. C'était les cadres qui avaient plus d'expérience que moi.
Ouais. Mais ça, est-ce que c'était pas lié à ta jeunesse?
Non. Non, non, j'ai vu que c'était pas lié à ma jeunesse, c'était beaucoup lié, je te dis, à mon profil. Après, il faut savoir faire sa place, quoi. Être très professionnel, ne pas laisser les gens se permettre des familiarités avec toi qui ne se permettraient pas avec quelqu'un d'autre.
Très important.
Ça passe par des petites blagues devant la machine à café, anodine, mais qui ont qu'ils essayent, en fait. Voilà. Donc moi, ça, je l'ai vite compris et j'ai gardé mes distances, en fait. Je restais très professionnel et j'étais bon dans ce que je faisais. Donc, bon, les gars, ils testent une période. Après, quand ils voient que ça tient la route, tout ça, on va pas se victimiser plus que ça.
Ouais.
Quand ils voient que ça tient la route, que tu fais ton job, que tu es sérieux, donc après, ils te considèrent de manière normale.
Complètement normal. Voilà. Mais il y a quand même une, entre ouais, y a quand même barrière une phase à l'entrée ouais. qui est un peu compliquée.
Il y a une petite barrière où on sent. On essaye d'être piqué par des ouais. petites boutades, par... Ouais. Des fois, des tutoiements, alors qu'ils vous voient tout le monde. Mm. Bah, pourquoi tu me tutoies, en fait ?
Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui te fait croire voilà. que moi...
C'est ça, en fait,
ouais,
le truc.
Je suis tout à fait d'accord.
Tu vois ? On peut subir une certaine pression, je pense, psychologique.
Mm. Mm, 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 mm.
Donc, il faut, voilà, il faut savoir faire valoir ses droits, dire que moi, je suis comme tout le monde. Donc, si tu vous vois tout le monde, tu me vous vois. Ça passe par des petits détails comme ça, voilà.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, ce qui transpire dans notre discussion, c'est quand même que tu as un fort caractère, mmh. dans le sens, pas forcément extraverti, mais en tout cas, tu sais ce que tu veux et tu ne te laisses pas faire. Qui t'a transmis ça ?
Enfin... Ça, c'est la fibre algérienne, ça. bon, après, je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais en tout cas, avec moi, ça se confirme. Après, ouais, mes parents aussi, ils sont jamais laissés faire. Voilà, après, c'est beaucoup des valeurs inculquées par le sport. Par le sport, c'est qu'on est tous pareils, c'est au mérite, c'est celui qui s'entraînera le plus dur qui gagnera.
T'as toujours fait de la boxe ? Ça a toujours été la boxe, ton sport ?
Là, on va dire que c'était le sport dans lequel j'étais le plus sérieux.
D'accord.
Après, j'ai touché un petit peu à tout, au tennis. J'avais des licences au tennis, au foot. Je touchais un petit peu à tout, au basket. Mais le sport qui m'a suivi depuis ma jeunesse, c'était la boxe. En tâche de fond, j'ai toujours. Jamais lâché la boxe.
Et t'en fais toujours, là, du coup ?
J'en fais plus ponctuellement, d'accord. surtout pendant cette période où je travaille beaucoup. Mais ce soir, par exemple, je vais à un gala de boxe.
D'accord,
demain, okay. on va faire un déplacement, on va soutenir des potes qui boxent à tour.
D'accord, donc tu restes quand même ouais, bien
toujours,
imprégné
voilà,
du truc.
Je suis toujours imprégné de la boxe. Et ça a été une vraie force pour moi, une vraie force mentale. Parce que la boxe, c'est un sport où il faut du mental.
Ouais.
Tu parlais de sortir de sa zone de confort. Typiquement, la boxe, c'est un sport où, que tu le veuilles ou non, tu vas sortir de ta zone de confort.
Ouais.
Voilà. Il faut être prêt tout le temps. Parce qu'on dit, la boxe, c'est pas un jeu. C'est vrai. Parce qu'on met quand même en son intégrité physique
en jeu.
En
ouais,
jeu.
C'est vrai. C'est jeu. Vrai. C'est vrai.
C'est pas un sport où tu vas juste gagner ou perdre. Tu vas peut-être perdre une dent.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est
donc,
vrai.
C'est un sport où il faut être tout le temps prêt.
Mm.
Voilà. Et ça a été une vraie force. Le sport, pour moi... Ça m'a conditionné à me dire je peux y arriver. Je peux y arriver. En sport, je suis plus fort que lui. J'ai passé je transposais des scènes sportives dans le
dans la vraie vie.
Je dis lui, il n'est pas capable de faire ce que je fais.
Mm.
Donc déjà, j'ai pas de complexe à avoir par rapport à lui physique.
Ouais.
Tu vois, je dis que si tous les deux on se met à faire du sport, quel que soit le sport qu'il veut, je sais que je suis plus fort que lui.
Ouais.
Donc déjà, on arrive avec une force intérieure de dire moi il m'impressionne pas.
Ouais,
pourquoi
mais ça, c'est énorme.
Parce qu'il est dans son costard.
Ouais.
Non, on est deux hommes et puis j'ai mon diplôme, j'arrive pas ici comme un menteur, donc je vais faire mes preuves. Et ça m'a vraiment aidé dans plein de situations où j'arrivais comme l'outsider.
Ouais.
J'ai fait des trucs dans des startups à Neuilly. Il y avait que des intellos, entre guillemets. Tu vois, et moi, j'arrivais.
Mais toi aussi, t'étais un intello pour certains, tu sais ou pas ?
Pour certains, ouais, pour certains, j'étais un intello, mais pas pour eux. Pas pour eux. Pour eux, j'étais j'étais Ali qui vient de banlieue et on va voir ce qu'il vaut, quoi.
Ouais.
Voilà, j'étais ça.
Mais moi, de toute façon, le sport, je pense que le sport, c'est magique parce qu'en fait, ça te fait vraiment développer des valeurs et une façon de te dépasser, en fait, qui est juste inestimable, en fait.
Franchement, quand tu fais du sport à haut niveau, tu peux tout encaisser. Franchement, j'avais pas la pression. Mais en fait, ça me faisait pas peur.
Ouais, tu leur dis, mais pourquoi autant de pression, quoi.
Je dis, mais c'est rien.
C'est rien, ça.
Tu vois ?
C'est rien.
C'est ça, en fait, ça m'a appris à encaisser la pression.
Ouais,
je voyais que eux avaient vraiment les mecs, ils avaient la boule au ventre devant des réunions ou dans les entretiens de carrière. Les mecs, ils étaient comme ça, tu vois.
Et là, tu dis, mais c'est juste tranquille, ça, quoi. Ouais. On discute.
Ouais, voilà.
On discute.
Et le fait de se mettre terre à terre, ça veut dire que c'est pas mon N plus je sais pas quoi, et ben c'est un gars lambda qui va me dire comment, ce qu'il attend de moi. Et ça, ça démystifie totalement déjà le rapport à ta hiérarchie.
Mais c'est hyper important.
Tu vois,
c'est hyper important.
Et je me suis retrouvé dans des réunions vraiment, mais à la cool. Et même eux, ils kiffaient en fait.
Bah ouais,
parce que mais c'est qui ce petit jeune là? Tu vois, il fait, tranquille. Je voyais les mecs, ils me préparaient. Ouais, Ali, donc t'inquiète pas. Lui, c'est elle, c'est la grande chef.
Ah ouais, il y a beaucoup ça dans les cabines. Tu vois, c'est beaucoup ça.
Elle, c'est la grande chef et tout. Moi, ouais, dans ma tête, je disais, ouais, cool, tranquille. Tu vois. Tu vois, en fait, je prenais beaucoup de recul.
Ça, c'est, mais ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour pas, pour pas s'emballer dans toutes les situations. Parce que
et moi, j'avais un petit truc à moi. Je pensais à un truc plaisant que j'allais faire après. J'ai dit, ah tiens, soirée, entraînement.
Ouais.
Et en fait, j'enlevais la pression de cette réunion en me disant ça. Je pensais à un truc que j'allais faire après. Je dis, ça dure une demi-heure. Après, je vais kiffer.
Ah, c'est
en
une bonne technique, ça.
Ouais. Et ça faisait en fait que j'arrivais sans pression.
Ouais, c'est une super technique.
Ouais, je me disais ça. Je pensais à un truc où ce soir, je sais pas, j'ai un truc bien à faire.
Ah,
ou demain. Tu vois, et je pensais à ça.
Ouais.
Et donc ça m'aidait à pas avoir la pression, à décompresser. Ouais.
Ah, c'est une bonne technique, ça, je connaissais pas du tout. Ouais. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal. J'ai encore deux questions pour toi. Comment tu trouves le rapport de la France à la diversité?
Ben, je pense déjà que le débat existe. Ça existe. Et je pense qu'il prend une place de plus en plus légitime.
Ouais.
De par l'époque qu'on vit, j'ai l'impression que les langues se sont déliées. Après, il y avait des choses que les gens n'osaient pas dire.
C'est vrai.
Et qui le disent haut et fort et qu'ils en sont fiers. Et l'un des témoins de ça, c'est les assos de défense des droits des hommes issus de la diversité. Et je pense notamment au CCIF,
ouais,
dont je connais pas mal de membres, personnellement. J'étais à la fac avec Marwan.
Ouais.
On était dans la même fac, donc je le connais très bien.
D'accord.
Et aujourd'hui, ils essayent de le diaboliser. Ouais, ils essayent de le diaboliser. Mais ça me fait rire, en fait. Comment ils peuvent parler d'un gars comme ça? Avec quel terme? Donc cet exercice de diabolisation, il est mis en route. Et au fur et à mesure, ça rentre dans la tête des gens.
Ouais.
Ça rentre dans la tête des gens. Ils te matraquent des mots. Et ça,
mais ça, c'est, ils vont matraquer en fait les gens qui ne sont pas de cette diversité-là. Et je pense que là où ça a changé aujourd'hui, c'est que des gens comme Marwan, que moi je ne connais pas du tout personnellement, mais que je suis uniquement sur les réseaux, moi, pour pas le connaître, ce gars-là, je le trouve hyper brillant. Et je pense que tous les gens qui sont de sa diversité, ils se rendent compte que t'as un processus de diabolisation. Mais ça, je pense qu'on l'a toujours vu, en fait, un peu depuis qu'on a grandi, c'est qu'en fait, ceux qui sont pas comme eux, forcément, sont diabolisés.
Pas comme eux maintenant, mais Marwan, c'est un mec qui a fait des études. C'est un mec qui s'exprime très bien.
Oui.
C'est pas un mec. Voilà.
Oui.
Donc maintenant, les profils qui sont diabolisés, ils sont de moins en moins marginaux. Le mec, c'est une tronche, c'est un mec brillant.
Tu connais l'expression du. C'est Idriss Aberkane qui avait dit ça, il y a un syndrome du reste à ta place.
Non, je connais pas cette expression.
Non, et bien en fait, lui, Idriss Aberkane, il dit que, en gros, quand t'es brillant, et que t'as fait les mêmes études que tu fais pas partie de leur monde. En gros, ils ont toujours une façon de te dire, mais en fait, reste à ta place.
Ouais,
t'as beau être brillant, t'as beau avoir un bac plus 10, bien parler et bien écrire, attention, on n'est pas dans le même monde. Et cette expression, malheureusement, je la trouve très juste, parce qu'en fait, je pense qu'on la voit au travail, on la voit en politique, on la voit, et quand tu vois justement des mecs comme Marwan, ils sont brillants. Enfin, c'est un mec, il est très bien éduqué, et pourtant, je pense qu'il fait face à ce genre de choses.
Voilà. Pour moi, lui, c'est le stéréotype de ce débat-là, du débat de la diversité.
Ouais, ouais. Dernière question. Si tu devais créer un ministère de l'égalité des chances, qu'est-ce que tu lui donnerais comme action? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire?
L'égalité des chances. Les mettre au sport, déjà.
Mettre au sport.
Ouais, le sport obligatoire, ouais.
C'est
ouais.
top, ça, c'est bien.
C'est top parce que ça va développer au-delà d'un physique. Le physique, c'est très important aussi. Mmh. Donc, au-delà du physique, ça va développer des qualités morales,
ouais.
de respect, mmh. des qualités mentales, mmh. de combativité, de refus de l'abandon,
ouais.
de refus de quelque complexe que ce soit, mmh. des valeurs comme no pain, no gain. Mmh. Ça, c'est bateau, mais ça, c'est vrai.
C'est
ça
énorme.
Veut dire que sans travail, tu n'auras rien. Mmh. Donc, on retrouve plein de valeurs qui sont véhiculés dans le sport en général. Donc ça, ce serait une des actions que je mettrais en place. Ensuite, j'insisterai sur l'instruction,
mmh.
et notamment le français.
Ouais.
Pour moi, aujourd'hui, si tu veux parler avec quelqu'un, il faut mmh. savoir parler. Si tu veux écrire sur les réseaux sociaux, il faut savoir écrire.
C'est clair.
Voilà. Ça déjà... Si tu passes ces barrières-là, tu peux t'exprimer. Tu peux t'exprimer notamment sur Twitter avec des personnalités.
Ouais.
Si tu as envie de débattre, si tu as envie de clasher, tu peux clasher dans un bon français. Parce qu'à la moindre virgule, les mecs, ils vont t'attaquer.
Ouais, je suis d'accord.
Tu vois ?
Je suis entièrement d'accord.
Donc, il faut savoir s'exprimer correctement. Voilà, ça, ce serait une des deuxièmes...
C'est pas mal, c'est
initiative.
Très bien.
Voilà, après.
C'est très, très bien.
Voilà.
C'est très bien. Mm. Bah écoute Ali, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Franchement, j'ai
kiffé l'entretien. Merci
Binta
de m'avoir. Moi aussi, le temps est passé très vite.
Merci beaucoup. Franchement, moi je suis très contente et je suis très fière d'avoir plein de beaux exemples devant moi comme toi quoi. Franchement.
Ouais, bah c'est...
Honnêtement, c'est top.
C'est cette reconnaissance là qui nous fait continuer et qui nous encourage. Donc je te remercie.
C'est bien. Mmh. Ben, merci beaucoup. Je pense que mon père, il va être jaloux en fait.
On le rencontrera.
Je vais l'amener au resto.
Avec plaisir.
Je vais l'amener au resto.
Avec
comme
grand
ça.
Plaisir.
Du coup, il va goûter. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mamadou et Binta. Les conteurs de belles histoires. Papa et moi vous souhaitons une excellente année 2019. À très vite!